On va passer à Patrick Berdugo pour l'ADDE qui va s'intéresser donc aux modifications apportées par le projet de loi au contentieux tant judiciaire qu'administratif et qui nous démontre une volonté de faciliter l'éloignement des personnes étrangères mais aussi de renforcer les mesures d'enfermement.
Bonjour. Alors quel n'est pas le plaisir qui est le mien de passer en dernier et de constater qu'aucune de mes collègues n'a dépassé de façon significative son temps de parole, ce qui va me permettre, je pensais en tout état de cause, de prendre tout mon temps. Alors, cette loi, pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, aurait pu s'appeler la loi pour une immigration éloignée et un budget largement explosé. Je m'expliquerai. Nous avons trois temps, donc dans cette loi, enfin dans ce qui nous intéresse, dans cette loi s'agissant du contentieux administratif et judiciaire. En premier temps, s'agissant du contentieux administratif, l'article 8 de la loi qui nous indique que le droit au maintien au séjour s'agissant des demandeurs d'asile déboutés ne sera plus désormais assuré jusqu'à la notification effective de la mesure, mais jusqu'à l'affichage de la mesure. Ce qui d'abord a un but intéressant, puisque c'est un but de contournement d'une jurisprudence établie du Conseil d'État. C'est intéressant de contourner une jurisprudence par une loi. Et de venir nous dire que, comme les administrations n'arrivent pas à justifier d'une juste notification des mesures administratives rejet d'une demande d'asile, et qu'elles succombent bien souvent dans le cadre des mesures d'éloignement postérieures aux demandes d'asile, on va leur faciliter la tâche. Désormais, une personne sera éloignable dès l'affichage de la décision à la CNDA. Ce qui va poser, à mon sens, deux difficultés. Première difficulté est de savoir comment réglementairement cet affichage va avoir lieu. C'est-à-dire comment il va s'opérer et comment on va pouvoir le vérifier. Le vérifier en tant qu'étranger qui est demandeur d'asile et qui est en attente d'une décision à intervenir. La deuxième difficulté, ça va être celle de savoir comment la connaissance de la personne qui bien souvent va être à l'autre bout de la France, quand je dis bien souvent, c'est souvent, va être à l'autre bout de la France, et celui-ci est censé savoir qu'une modalité d'affichage à la CNDA qui ne lui sera probablement pas indiquée téléphoniquement, mais on n'en sait rien, va changer son statut juridique de personne en sécurité, puisque ayant droit au maintien, à personne potentiellement éloignable. Et imaginons cette situation dans le cadre d'un contrôle d'identité lambda, par exemple, à l'autre bout de la France. C'est également, à mon sens, une difficulté pour les services de police qui vont avoir, et services administratifs, qui vont avoir une charge de travail supplémentaire, puisque pour chaque personne contrôlée, rappelons, en 2017, on est sur environ 47 000, 48 000 personnes contrôlées, enfin, faisant l'objet, pardon, d'une rétention administrative, hein, pas contrôlée. Pour chacune de ces personnes, on devra, par un moyen ou un autre, trouver la possibilité pour les services contrôleurs, services de police ou services de gendarmerie, de quérir l'information auprès de la CNDA. Alors, si c'est par l'entremise d'un nouveau fichier type Télémofpra, eh bien, on a la jurisprudence du Conseil d'État qui nous indique que ces fichiers n'ont pas de sécurité suffisante pour faire droit. Si c'est un contact téléphonique, je laisse à votre appréciation et à votre compréhension ce que ça va donner en termes de logistique humaine de passer 47, 67 ou 90 000 coups de fil à longueur d'année à la CNDA pour leur demander « Est-ce que monsieur Tirunavukarasu est ou n'est pas affiché ? Est-ce que c'est un rejet ou pas un rejet ? Oui, oui, vous me mettez en attente, merci, j'attends. » Ça va être une usine à gaz à mon sens. Deuxième difficulté, l'article 12 de la loi qui nous dit que le tribunal administratif en matière d'OQTF pour les personnes placées en rétention a désormais 96 heures pour statuer à l'expiration du délai de recours. Le délai de recours contre les mesures d'éloignement, c'est 2 jours, 48 heures. Donc, s'il a 96 heures pour statuer, mécaniquement, le tribunal administratif statuera au bout de 6 jours. Pourquoi ? Pour éviter la collision avec le contentieux judiciaire, juge des libertés et de la détention qui intervient le 2, le 3 ou le 4e jour selon la loi, et cour d'appel qui interviendra peut-être le 5e jour si la loi dans sa mouture actuelle va passer. C'est intéressant puisque ça permet évidemment d'avoir une sauvegarde supplémentaire. Rappelons qu'une personne ne peut être éloignée du territoire alors même que le tribunal administratif n'a pas statué sur son éloignement possible. Néanmoins, la difficulté qu'il va y avoir, c'est que statistiquement, on est à 20% d'annulation aux tribunaux administratifs sur les mesures d'éloignement. Et que aujourd'hui, une personne est susceptible de passer devant un tribunal le deuxième jour après le placement en rétention. Premier jour, elle est placée, elle fait un recours, le lendemain, elle peut être représentée devant un tribunal. Si les 20% en question doivent attendre 6 jours, cela leur fait gagner 4 jours de rétention, entre guillemets, indus. Premier élément. Deuxième élément, si on laisse la justice judiciaire faire son travail, ce qui est bien, hein, on oublie qu'un certain nombre de personnes ne sont pas présentées à la cour d'appel parce qu'elles sont éloignées. En effet, aujourd'hui, on a des passages devant le tribunal administratif dans les 2-3 premiers jours et la cour d'appel ne voit jamais les personnes parce qu'on a un vol qui est prévu très rapidement, notamment pour les personnes détentrices d'un passeport au moment où elles se font interpeller. Si le tribunal administratif statue in fine, tout le monde passera à la cour d'appel. Et les cours d'appel qui ont subi une augmentation de leur contentieux de 80% sur l'année 2017 vont subir le contre-coup de cette loi, c'est-à-dire l'intégralité du contentieux qui va augmenter leur, j'allais dire chiffre d'affaires, nombre de, d'affaires à traiter. Troisième difficulté, troisième élément évolutif de cette loi, c'est l'article 8 qui nous indique que le tribunal administratif, désormais dans le cadre de l'urgence notamment, statuera en même temps sur l'éloignement mais sur aussi une mesure de refus de séjour, enfin une mesure de refus de séjour qui serait actuellement pendante. Le tout à juge unique, sans rapporteur public et dans un cadre d'urgence. Ce qui évidemment peut poser une vraie difficulté vu les délais afférents à un examen par le tribunal administratif, puisque sur des délais de 10 ans, sur des personnes qui sont en France depuis 10 ans ou des malades, cela pose des difficultés. Ensuite, s'agissant du contentieux judiciaire et de la rétention administrative, on a un certain nombre d'éléments qui posent difficulté. D'abord, s'agissant de l'assignation à résidence judiciaire ne sera désormais possible que dans le lieu d'habitation, ce qui exclut de fait les gens migrants qui n'ont pas de domicile effectif et, textuellement, c'est la loi qui le prévoit, les gens résidant dans des camps. Ça pose une difficulté quant à l'assignation judiciaire à résidence et ça la restreint. De la même façon, on demande au juge désormais de motiver spécialement une assignation à résidence pour toute personne s'étant maintenue sur le territoire, alors même qu'elle a fait l'objet, peut-être plusieurs années auparavant, d'une simple mesure d'éloignement aujourd'hui caduque. Donc on incite le juge à ne plus assigner à résidence. Deuxième évolution, toujours l'article 16 de la loi, les droits des retenus s'exerceront au lieu de rétention. C'est-à-dire que dès lors que les personnes ne seront plus dans leur lieu de rétention, leurs droits ne peuvent plus s'exercer. Alors, cela encore pour contourner une décision jurisprudentielle habituelle de la Cour de cassation qui rappelle qu'une fois les droits ouverts, ils ne cessent jusqu'à l'éloignement de l'intéressé. Et cela peut avoir une vraie difficulté dans les cadres d'expiration des délais. Imaginons qu'une personne se trouve à l'extérieur du centre de rétention, hôpital, consulat, au moment où un délai d'appel ou de saisine du tribunal administratif vient à expirer, elle ne pourra pas exercer ses voies et délais de recours. C'est la loi qui le prévoit et c'est un effet négatif de cet élément légal qui a juste pour effet de faciliter le travail de la préfecture. Troisième difficulté, la durée de la rétention, qui va passer à 90 jours en l'état actuel des discussions, qui pourrait passer à 90 jours. Alors, pourquoi ? On ne sait pas. Durée moyenne d'une rétention, 10-12 jours. Au-delà des 30 jours, taux marginal d'éloignement passe à 3%. In fine de la rétention, au bout de 45 jours aujourd'hui, on retrouve peu ou prou 15% des personnes qui se trouvent encore en rétention et qui vont être remises en liberté à l'issue de ces 45 jours. Donc, cette loi, elle est faite pour 15% des personnes qui, sur le quantum des 47 000 rétentions, nous font peu ou prou, 7 000 personnes au total. Bon. La difficulté qu'on va avoir, c'est que sur ces 7 000 personnes, on va effectivement en éloigner que la moitié environ. Pourquoi ? Parce que la difficulté, ce n'est pas les personnes qui font obstacle à leur éloignement, ce sont les États tiers qui font obstacle à la délivrance du laissez-passer. La difficulté qu'on va avoir, c'est que les études d'impact nous montrent que ça ne sert à rien. Par contre, la Cour des comptes en 2009, quand la rétention faisait 32 jours, nous a expliqué que le coût financier d'une rétention annuelle, c'était 200 millions de budget. Si elle passe à 90 jours aujourd'hui, le coût de la rétention annuelle, elle sera à 900 millions de budget. 900 millions de budget, problème budgétaire, mais aussi avec 3 fois plus de passages devant les juridictions, puisqu'on va rajouter 2, peut-être 3 ça dépend des discussions qu'il y a actuellement, passage devant les premiers juges et les seconds juges, donc une asphyxie des juridictions judiciaires qui essayaient de réduire leur travail. Enfin, s'agissant de la rétention, la question du juge des libertés et de la détention, qui considérait qu'il n'avait pas le temps de statuer dans les 24 heures qui lui étaient imparties, et a demandé, les juges des libertés et de la détention ont demandé à avoir 48 heures pour statuer. On s'est dit, tiens, on va homogénéiser les statuts de la rétention et de la zone d'attente, puisqu'aujourd'hui, en zone d'attente, effectivement, les JLD ont 24 plus 24 heures pour statuer en cas de circonstances spécifiques. Là, on indique au JLD qu'il va avoir 48 heures pour statuer. Ce qui veut dire qu'en fait, mécaniquement, le juge va fixer son audience au deuxième jour. Il n'a pas 24 plus 24 heures pour statuer. Cela a un deuxième effet, un dernier effet négatif, qui est que aujourd'hui, nous avons peu ou prou 22 ou 23% de personnes remises en liberté par le JLD. Et si on laisse une journée de plus ces 22 à 23% de personnes sur 47 000, hein, ça fait 10 000, 12 000 personnes, en rétention un jour de plus, eh bien cela nous donne un quantum annuel de rétention illégale et gratuite qui augmente d'autant. Le tout pour un effet qui sera peu ou prou de 3 500 éloignements supplémentaires dans l'année, c'est-à-dire strictement rien. S'agissant de la zone d'attente pour finir, un mot et une véritable réforme, la tentative de volonté, là aussi, d'homogénéisation dans la cause d'appel. Aujourd'hui, les cours d'appel en matière de zone d'attente vont avoir la possibilité, comme en matière de rétention administrative, de trier les dossiers qu'ils considèrent insusceptibles de façon manifeste de prospérer, c'est-à-dire les dossiers qui n'ont aucune chance selon le juge qui va juger. Mais avant de trier, il faut procéduralement permettre à la personne de s'exprimer et de présenter des observations. Or, en matière de zone d'attente et contrairement à la rétention, il n'y a pas de marché public d'associations juridiques présentes, ce qui veut dire que pour assister les étrangers en zone d'attente, c'est-à-dire les personnes les plus vulnérables que l'on ait, hormis les mineurs, les plus vulnérables qui ne parlent pas le français et qui ne connaissent pas le droit français, il faudra budgétiser une association et donc dépenser de l'argent supplémentaire pour un effet qui, sur l'année d'application en matière de rétention administrative, est un effet cacahuète. C'est-à-dire qu'on a moins de 1% des appels actuellement qui est trié de ce fait-là. Il me semble là encore que ce sont des dépenses des deniers publics pour pas finalement grand-chose et des effets d'annonce.